Alors nous arrivons à la septième parole de Jésus prononcée sur la croix. Quand on a commencé cette petite série, bien sûr on se demandait jusqu'où on allait aller. Et on voit que chaque parole est différente et chacune nous aide à approfondir ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a fait pour moi sur la croix. Chaque parole nous aide à mieux comprendre son œuvre et sa personne. Alors cette septième parole de la croix, c'est dans Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte. On va voir que c'est important, cette voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant cela, en disant ces paroles, il expira. Seigneur, ouvre pour nous ton saint évangile. Amen. Alors le Christ vient à peine de prononcer les paroles que nous avions commentées la semaine passée. Tout est accompli. C'est en Jean 19, 30, si on recoupe toutes les paroles ensemble. Il vient juste de dire ça. Et aussitôt, une nouvelle phrase s'enchaîne, on va dire, à la hâte, en hâte, tout de suite après. Et c'est donc la septième et dernière parole que Jésus va prononcer, que les évangélistes ont recueilli. Et cette dernière parole va clore à présent le dernier acte de la passion de notre Sauveur. Alors le premier mot sur lequel nous pouvons insister, c'est le mot « Père ». Ça ne vous a pas échappé. « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». C'est la seconde fois, sur la croix, que Jésus prononce ce nom de Père. Ce nom de Père ouvre au début de la crucifixion, la prière qu'il a présentée à son Père en faveur de tous les responsables de ses souffrances et de sa mort. Il avait dit « Père, pardonne-leur ». Et maintenant, c'est à la fin de ce cycle, la fin de la crucifixion, plusieurs heures après. Donc, ce nom précède à nouveau la citation d'un psaume que Jésus a choisi pour exprimer son dernier acte de foi. Il a commencé... il a commencé par le mot Père, il termine par le mot Père. Il a déjà cité un psaume, c'était le psaume 22, et maintenant il va citer un autre psaume, le psaume 31. Entre ces deux invocations, pleines d'amour filial, Jésus a traversé, on l'a vu, une période de détresse, où la face du Père était comme soudainement voilée. Il n'a pu que s'écrier « Mon Dieu, mon Dieu ». Et il endurait, à notre place, les souffrances infernales, on va dire. Il endurait un éloignement, il endurait une absence, il endurait un abîme de solitude, qui sont les conséquences mortelles de notre péché. Mais à cette dernière minute de son existence terrestre, la lumière, eh bien, a retrouvé son éclat. C'est avec toute sa lucidité, c'est avec toute sa foi, c'est avec toute sa conscience filiale, c'est avec une pleine possession de sa mémoire et de sa volonté qu'il dit « Père, je remets mon esprit ». Dernière parole d'un agonisant qui s'en va définitivement. Non. Et c'est cela qui fait toute la différence entre sa mort, entre son départ vers le Père et notre mort à nous. Le Christ est celui qui meurt, mais en même temps, il reste celui qui est la vie, celui qui vit avec un grand V. Il reste le Seigneur de la vie. Il reste l'agent de notre salut. Il reste le Seigneur universel. Alors Jésus prie dans ce même esprit que le psalmiste dans le psaume 31. On va mieux comprendre avec la citation qu'il a choisie. Donc, une citation du psaume 31, c'est encore une citation de la Bible, de la Bible de son peuple, que Jésus, au moment qu'il rend son dernier soupir, utilise. Comme le cri de détresse du psaume 22, poussé à l'heure du grand abandon, il l'emprunte au psaume, à un psaume de David, à une prière adressée à Dieu dans l'épreuve. Et on peut encore rappeler que cela montre le prix infini que Jésus attachait au psaume, le prix infini des psaumes pour son cœur de fils du Père. l'ensemble du psaume 31, si on le relisait, on ne va pas le relire aujourd'hui, on ne va pas le relire maintenant, je veux dire, mais l'ensemble du psaume 31 s'adapte à la situation de Jésus crucifié. C'est un appel, c'est un cri en effet. « À toi de me délivrer », dit le verset 3 du psaume 31. Mais l'ensemble du psaume est aussi une expression de confiance, et de confiance en l'avenir. Et ça s'adapte aussi à ce que Jésus traversait. « Tu es mon roc, ma forteresse », dit le verset 4 du psaume 31. Le psalmiste est passé par l'épreuve, comme Jésus. « Tu connais les angoisses de mon âme », verset 8. Il est environné d'adversaires, comme Jésus. « Il se lie contre moi », verset 14. Mais en définitive, le psalmiste sait en sécurité, « Tu es ma protection », dit le verset 5. Alors, puisque la phrase est tirée du psaume 31, mais verset 6, on va lire les versets 6 à 9. « Je remets, tu es ma protection. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. Je me confie en l'Éternel. » Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu m'as mis au large. Voilà l'essentiel de ces versets. Alors c'est clair que si on lit ces versets, c'est clair que l'homme dont il est question dans ces versets, dans ce psaume, se trouve au milieu de la vie, pas à la fin de la vie, mais au milieu de la vie. Il est aux prises avec les problèmes de la vie. Il demande à Dieu de le délivrer de ses ennemis, avant tout. Il prononce une prière de supplication qui exprime sa confiance en Dieu dans l'épreuve, au milieu de l'épreuve. Et dans cette prière, il réclame sa protection permanente. Il se réjouit aussi de l'heure de sa délivrance, de l'heure d'être bientôt mis au large, libéré. Et donc, par un acte de confiance, le psalmiste reste disponible pour accomplir l'œuvre de Dieu dans la suite des temps et pour poursuivre sa mission. Il sait que les gens sournois préparent des embûches et complotent contre lui. Mais dans sa confiance, il sait aussi que son sort se trouve entre les mains de Dieu, des mains de puissance et de grâce. Il ne sombre pas dans la panique en face de ses persécuteurs haineux, plein de haine. Il poursuit son chemin. Il contemple la vie. Il tourne sa face vers Dieu, son libérateur. Il est spirituellement actif, on peut dire, et non passif. Et il envisage l'avenir avec espérance. Donc avec la même confiance que l'auteur du psaume 31, Jésus élève sa voix pour prier. Il est confiant. Il sait que les attaques de ses adversaires ne le ruineront pas définitivement, qu'ils n'auront pas le dernier mot. Et l'expression « entre tes mains », je remets ma vie entre tes mains, mon esprit entre tes mains, est admirable. S'abandonner entre les mains de Dieu, ça veut tout dire. Tout est là. Alors ses ennemis s'imaginent lui ôter la vie, mais lui est assuré que c'est Dieu qui décide de son sort final et du sort final de chacun. Eux prétendent que c'est sa fin. Lui, il confesse sa foi au Dieu vivant, sauveur et père. Aussi bien sa protection que sa victoire lui sont assurées. Alors le Christ ne pouvait annoncer cela que d'une voix assurée, on comprend. Il ne pouvait que crier cela, il ne pouvait que dire ça à haute voix. Il devait défier par sa voix assurée la présomptueuse rébellion de ses bourreaux d'une voix encore plus forte que celle du psalmiste 1000 ans avant. Le Christ en croix connaît Dieu en profondeur, il est confiant, il sait que le Seigneur prendra soin de son esprit. Et sa mort est un acte libre. Un acte puissant. Il participe pleinement et volontairement au plan du salut. Et dans la prière, il dit son accord total. Et l'évangile de Jean le souligne à sa façon avec une force exceptionnelle. Jean 10, 17. Personne ne m'ôte la vie. Voilà un verset tout à fait adapté à ce que je viens de dire. Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà le cri de Jésus sur la croix. Puis, il est dit qu'il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors, par ces mots, l'apôtre Jean termine son... il termine ce récit de la Passion. Mais il faut bien rappeler aussi que baisser la tête ne veut pas dire pour Jésus un signe, n'est pas pour Jésus un signe de résignation. Le mot employé indique plutôt que l'œuvre est achevée et qu'il peut maintenant goûter le repos. L'œuvre est achevée. Il ne rend son âme à Dieu que lorsqu'il a conscience d'avoir achevé toute sa tâche. Et ce mot marque aussi un contraste. Durant tout son ministère, comme le dit un évangile, Jésus n'a pas eu un lieu où reposer la tête, n'a pas eu de lieu où reposer sa tête. Il n'a pas eu de repos. Et à la croix, maintenant, à l'heure de sa mort, il entre dans le repos qu'il n'a pas trouvé de son vivant et au cours de son ministère. Le Père à qui il remet son esprit lui réserve un accueil différent de celui des hommes. Les hommes ne l'ont pas accepté en grande partie. Il n'a pas eu d'accueil chez les siens. Mais maintenant, il est accueilli par le Père. Comment ne pas évoquer le psaume 110 ? Alors, ça ne vous dit peut-être rien, ce psaume 110, on va lire les premiers versets simplement. « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Voilà ce genre de paroles par lesquelles il a été accueilli au ciel. C'est un hymne, ce psaume 110, c'est un hymne de victoire, messianique, concernant le Messie. Et c'est un des hymnes les plus cités dans le Nouveau Testament. Dans ce psaume, l'Éternel dit au Seigneur de s'asseoir à sa droite. Donc, il reçoit la puissance, le gouvernement de toutes choses. Il est le vainqueur, qui est aussi le sacrificateur pour toujours, à l'image de Melchisédek. Et il ouvre aux croyants le royaume de Dieu. Il exerce aussi le jugement parmi les nations. Il écrase, il dit, le chef d'un vaste pays. En chemin, il boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. C'est ainsi que se termine ce psaume magnifique, ce psaume 110. Alors on ne peut s'empêcher de penser au dépit de Satan, à l'amertume de Satan. On ne va pas le plaindre. Mais on peut penser au dépit de Satan, voyant et entendant Jésus sur la croix, achever sa victoire, une victoire totale, avec un grand V. Pas plus que Satan n'a pu vaincre jadis Jésus à l'heure de la tentation, au début de son ministère, pas plus qu'il n'a pu le vaincre et le détourner de sa mission tout au long de son ministère. Eh bien, il ne l'a pas vaincu non plus à Gethsémané. Il ne l'a pas vaincu maintenant non plus au calvaire. Satan ne peut pas empêcher Jésus d'aller jusqu'au bout de l'amour et donc de la souffrance. Et c'est là que Jésus remporte une pleine victoire sur le péché, sur la mort, mais aussi sur l'ennemi de nos âmes, le diable, Satan. La mort sur la croix est un acte royal, parce qu'elle est l'accomplissement de la justice, elle est l'établissement de la paix. Elle est cette paix qui était annoncée déjà un peu au rameau. Elle est la victoire sur toutes les puissances hostiles. Celui qui a été fait péché pour nous et qui a porté à cause de ce péché la malédiction de la mort, eh bien, a englouti dans sa mort sur la croix le péché et la mort. La croix est puissance de Dieu. Elle est triomphe du Christ. Alors, n'est-ce pas aussi ce qu'exprime l'apôtre Paul lorsque, aux Colossiens, parlant du grand combat du Christ, il s'écrit « Il a désarmé les puissances et les autorités. Il les a exposées publiquement en spectacle. Il les a exposées à la risée du monde en les entraînant à la suite de son char triomphal, la croix. » Voilà la victoire. n'est-ce pas aussi déjà l'aube de la résurrection qui est annoncée? L'évangile de Luc raconte, il faut toujours regarder le contexte, eh bien l'évangile de Luc raconte juste après qu'au moment où Jésus meurt sur la croix, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, eh bien se déchira alors que commençaient les cérémonies préparatoires à la célébration de la Pâque. Le lieu très saint devient maintenant ouvert, il devient visible pour tous, ouvert à tous. C'est le symbole de l'abolition, de tous les rites sacrificiels qui étaient des rites qui annonçaient Jésus. Maintenant, l'accomplissement est arrivé dans le sacrifice parfait, unique et parfait offert par Jésus-Christ lui-même sur le calvaire. Alors, nous ne devons, si on voulait résumer tout ça, on dirait qu'on ne doit jamais oublier que, eh bien, le Christ en croix est tout d'abord le Seigneur de la vie. Il est tout d'abord l'agent, l'auteur de notre salut. Il est tout d'abord le Seigneur universel, jusqu'au bout, toujours. La septième parole nous rappelle qu'il ne meurt pas dans la défaite, mais en pleine possession de la vigueur de son esprit. La septième et dernière parole affirme solennellement et vigoureusement que le jour se lève maintenant sur un acte, vers un acte nouveau, vers un autre début, vers un nouveau début. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Après les ténèbres, une nouvelle scène s'ouvre sous les projecteurs des lumières célestes. Alors, tout cela, nous allons maintenant essayer de l'appliquer encore à nos vies. Jésus dit cette parole, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ça peut avoir, on peut se l'approprier au moins de trois façons. Alors, on avait touché un mot dans une prédication quelque temps, quand on parlait des choses dernières. La première chose qui vient en tête, c'est au moment de mourir. Nous pouvons nous approprier, faire nôtre ces paroles au moment de mourir. Jésus s'approche de Dieu, comme celui qui s'est mis à notre place pour porter le péché, pour nous réconcilier avec Dieu, pour établir la communion avec Dieu. Il parle pour nous en nous donnant le pouvoir de prononcer ses paroles après lui. Et maintenant, nous pouvons, dans la confiance, prononcer ses paroles après lui, au moment de notre mort. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Que de chrétiens ont vécu et sont morts avec dans le cœur et souvent sur les lèvres la septième parole de Jésus sur la croix. On peut se rappeler simplement, et comme on l'avait déjà dit, Étienne, le premier martyr, il est lapidé devant le futur apôtre Paul et en mourant il dit « Seigneur Jésus, je reçois mon esprit ». Il s'inspire de Jésus. Il se rapproche de Jésus par Jésus, à cause de Jésus. Alors on peut se rappeler dans l'histoire de l'Église, si vous lisez, si vous aimez les biographies, eh bien, il y a plusieurs grands personnages, grands ou petits personnages, qui ont repris ces paroles. On peut se rappeler Jean Hus, le grand martyr du XVe siècle, sur le bûcher de Constance. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. On peut penser à Savonarole, sur le bûcher de Florence, priant au milieu des flammes, les mêmes mots du psaume prononcé par Jésus sur la croix. On pense aussi à Luther, qui n'est pas mort martyr, mais qui a prononcé ces mots aussi. On pense à d'autres, qui au moment ultime ont repris à leur compte ces paroles, pleines d'assurance. Avant notre mort, nous sommes assurés qu'en lui, nos esprits sont déjà dans les mains du Père, sous la garde du Père. Nous avons l'assurance que, comme dit l'apôtre Paul, si notre demeure terrestre est détruite, notre corps, nous avons dans les cieux un édifice éternel qui n'a pas été fait par la main des hommes. Et donc notre corps sera séparé un jour temporairement de notre âme. Notre âme restera unie au Christ, on l'a déjà dit, mort pour nous, et le corps ressuscitera au dernier jour dans un état transformé, afin que nous vivions, on va dire, tout entier, désormais après, avec le Seigneur. Alors nous pouvons puiser dans cette parole de Jésus un énorme encouragement, un gigantesque réconfort. Quelle sérénité de pouvoir nous remettre entre les mains du Dieu Tout-Puissant, sachant que lui, qui est le seul immortel, qui seul possède la vie, ne cesse d'agir et de poursuivre ses actions, même lorsque nous rendons le dernier soupir. Et bien que nos yeux se ferment à la lumière du jour, lui demeure, et nous sommes entre ses mains. Alors nous pouvons donc reprendre ces paroles, nous les approprier au moment de notre mort. Nous pouvons nous les approprier également, chaque soir, si nous voulons. Et ça, ce n'est pas sans intérêt également. Il n'est pas sans intérêt de rappeler que dans la prière juive, même avant Jésus, donc on pense aussi au temps de Jésus, le psaume 31 était une prière du soir. Et les enfants devaient le réciter, surtout ce verset-là, avant de s'endormir. Je remets mon esprit entre tes mains. Et même, il est dit que tout Israélite adulte était censé lire ce texte en guise de prière et de requête à la fin de la journée. Alors nous aussi, chaque soir, nous pouvons prier. On peut trouver d'autres paroles, mais je veux dire, dans l'esprit de ces paroles, nous pouvons dire également, « Père, je remets ma vie entre tes mains. » C'est une belle prière. Le sommeil de la nuit est certainement une petite mort. Mais nous sommes pris en charge par le Seigneur. Ainsi, du moins, nous prions avec le Christ en son nom, sa prière, qui sont les paroles divinement inspirées par l'Esprit Saint et inspirées du psalmiste. On est bouleversé en pensant également qu'en prononçant cette prière de confiance, notre Sauveur n'a pas choisi un grand passage des Écritures. Il a choisi un petit cantique ordinaire de la piété israélite qui était récité par les enfants. Il prononce donc une prière destinée à être dite aussi bien par des petits que par des grands. Et ce sont des paroles empreintes d'une confiance enfantine, d'un abandon tout enfantin mais profond à Dieu. On peut dire que par ces paroles, il se met à notre portée. Il se met à la portée de tout le monde. Il prend tout le monde. Il prend tout le monde avec cette parole. Et puis cette parole, pas seulement on peut la reprendre, pas seulement à l'heure de notre mort, pas seulement chaque jour à la prière du soir, mais en tout temps, tout au long de nos journées. Cette prière peut devenir notre prière tout au long de nos journées. Le chrétien, grâce à Jésus qui s'est remis à Dieu sur la croix, trouvera la consolation en lui en toutes circonstances. Et Dieu sait que nous traversons parfois des dangers. Voilà notre appui dans un monde où nous nous sentons environnés de dangers, de menaces, de toutes sortes. Nous sommes en danger. Nos conditions de travail, nous sommes en danger par nos conditions de travail. Nous sommes en danger par une situation économique précaire, des trajets dangereux, en voiture, en avion, n'importe quoi. Tout cela nous met en danger. Je ne vais pas rallonger la liste. La liste pourrait être allongée indéfiniment. Elle pourrait être allongée de mille et un soucis, de mille et un fardeaux, parfois bien lourds à porter par nos frêles épaules. Aussi, chaque jour, nous nous remettons à chaque moment de la journée, quand le fardeau devient lourd, quand l'angoisse nous étreint, nous nous remettons, nous et les nôtres, entre les mains du Christ, afin qu'il nous décharge de ce qui nous oppresse, de ce qui nous angoisse, de ce qui nous inquiète. Père, je remets ma vie entre tes mains. La communion de sa présence nous rassure et nous sécurise. On a besoin de ces courtes prières qui nous ramène au centre, qui nous ramène là où on doit être, tout près de Dieu. Alors je vais conclure sous une forme originale, un peu différente, avec deux prières qu'on va lire des yeux tout d'abord et que quelqu'un va lire ensuite. La première prière, ce n'est pas de moi, je les ai trouvées quelque part, j'ai repris en les adaptant. C'est à peu près la même chose, mais les mots sont un peu différents. Alors, on va lire la première prière, d'abord avec les yeux. Seconde prière un peu pareille, un peu différente. On va d'abord lire avec les yeux également.